Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retire en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais que nous puissions nous interroger sur le sens de ce texte. Bien sûr, il correspond tout d'abord à une réalité, à un épisode tout à fait historique dans la naissance du Seigneur, à savoir que des hommes, des mages, c'est-à-dire des hommes qui observaient les étoiles, ont été conduits par une étoile jusque vers le Seigneur et leur ont apporté leur présent. Je voudrais vous dire ceci, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient trois comme la tradition le dit. La tradition dit qu'ils étaient trois parce qu'il y a eu trois présents qui ont été offerts, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils étaient trois, ils étaient peut-être cinq, ils étaient peut-être dix, on n'en sait rien. En tout cas, c'était des hommes qui avaient été, qui avaient compris que Dieu était en train de leur parler, au travers de ce signe naturel. On va y revenir dans un instant. Mais en ce qui nous concerne, nous voulons nous attacher aux Écritures et comprendre ce que le Seigneur veut nous dire également. La semaine dernière, nous avions parlé des réalités célestes et des réalités terrestres. Et nous avions compris combien il était important pour nous d'avoir les yeux ouverts sur les choses d'en haut, les choses du ciel, alléluia. C'est-à-dire de, comme on l'a dit la semaine dernière, de considérer Jésus, alléluia. C'est vrai que si nous avons les yeux constamment fixés sur les choses de la terre, nous serons fortement déçus, peut-être en colère, peut-être déprimé, je ne sais, mais l'Écriture nous dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia! Et pour nous, c'est important d'avoir les yeux fixés, non pas sur les choses d'en bas, mais sur les choses d'en haut. Nous avions vu que le diable, Satan, voudrait que nous soyons courbés comme cette femme qui avait le dos courbé, qui ne pouvait pas voir le Seigneur, mais qui était plié en deux, considérant que les choses de la terre, et il voudrait par toutes sortes de soucis, de fardeaux, de difficultés, nous empêcher de regarder la gloire de celui qui règne. Alléluia. Mais le Seigneur nous relève. Alléluia. Sa parole s'adresse à nous et il nous redresse, il nous donne la victoire et nous pouvons le contempler. Oui, mon Sauveur est vivant. Alléluia. Oui, il règne. Oui, il reviendra. Oui, il a donné sa vie pour moi. Oui, j'ai un avocat. Oui, mes péchés sont effacés. Et si je chute, il me relève. Alléluia. J'ai un avocat et je veux marcher avec lui de progrès en progrès. Mais maintenant que nous connaissons ces choses, Nous avons besoin d'être conduits par ces choses-là, par les choses célestes. Et je crois que le message que l'Écriture nous donne, eh bien, au travers de ces mages qui sont partis d'Orient pour aller jusque, eh bien, dans cette ville, eh bien, de Bethléem, pour voir le Seigneur et l'adorer, nous montre que nous avons besoin non seulement de savoir les choses, eh bien, qui sont dans les cieux, c'est-à-dire à savoir que Jésus règne, alléluia, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, mais que maintenant, ici-bas, sur cette terre, nous soyons conduits justement par ces réalités célestes, alléluia. Et quelqu'un disait, il y a deux façons, eh bien, d'atteindre un but, soit on utilise une carte, c'est-à-dire on s'en réfère à la sagesse des hommes, ou soit on lève les yeux vers le Seigneur et on s'en réfère à la sagesse de Dieu. Pas la même chose, hein ? Parce que la sagesse des hommes, elle est visible, elle est tangible, je peux l'expliquer, c'est rationnel, etc. Mais ça reste humain, ça reste humain, et on peut se perdre. Dans la semaine, j'ai cherché une adresse, j'ai mis dans mon GPS, c'est formidable un GPS, hein ? Mais je suis arrivé dans un endroit, mais c'est là ? Il dit, non, c'est bizarre, ils disent que c'est là, mais en fait, c'est pas là, c'est à l'autre bout. Ah, la sagesse des hommes. Tandis que le Seigneur, lui, se trompe jamais. Alléluia. Parfois, le Seigneur nous fait partir comme Abraham, sans savoir où il allait, mais il a atteint le but. Il a réussi son voyage. Alléluia. Et nous aussi, nous voulons laisser le Seigneur, eh bien, nous conduire et nous guider. Et le plan, alors je ne l'ai pas écrit pour ceux qui aiment les plans, mais je vais le dire. Point numéro un, une étoile visible. Une étoile, on va parler de l'étoile. Une étoile brillante. Une étoile qui marche devant nous et une étoile que l'on aperçoit. On va terminer là-dessus. Alors tout d'abord, une étoile visible. Alors, ces mages, ces hommes qui étaient habitués, on est dans l'Antiquité, on est quand même dans des temps où l'Évangile n'est pas du tout répandu, où il n'y a qu'un seul peuple qui connaît Dieu, c'est le peuple d'Israël, mais cette connaissance eh bien, n'est pas chez tous les peuples, et on est aussi, d'une certaine manière, dans des temps d'ignorance, et certains se sont posé la question, mais comment est-ce que ces hommes-là, ces mages-là, ont fait la relation entre l'avènement d'une étoile dans la voûte céleste avec la naissance de Jésus? Comment est-ce que ça leur est venu? Et certains ont émis l'hypothèse, qui semble tout à fait vraisemblable, qu'ils étaient au courant de ce qu'un des leurs, dans les siècles passés, avait annoncé concernant la venue d'un certain personnage. Et on le retrouve dans la Bible. Ce personnage, il se nomme Balaam. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 24, au verset 17, eh bien, on peut lire ceci. Je vais vous le lire, vous pouvez le trouver, je ne sais pas si ça va apparaître, mais moi je vais vous le donner dans une autre traduction qui s'appelle la traduction « Parole de vie ». Et il est écrit ceci. « Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève au milieu du peuple d'Israël. Avec son bâton de roi, il frappe les Moabites à la tête. » Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez. Je le vois. Mais vas-y, merci. Merci de le remettre. Le texte. Ah, Emmanuel, c'était bien parti. Voilà. C'est parti. Ça ne revient pas. Ça y est. Ah bon, voilà. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre, une étoile, sort de Jacob. Un sceptre s'élève, le bâton de roi d'Israël. Il perce les flancs. » Et là, dans cette autre traduction, il nous est dit « il frappe les Moabites à la tête », on le trouve dans d'autres traductions, et il abat tous les enfants eh bien, de Seth, c'est-à-dire les ennemis. Et donc nous voyons que cette étoile, eh bien, pour eux, s'ils s'en référaient à cette prophétie de Balaam, eh bien, qui n'était pas un juif, mais dans certaines circonstances, rempli du Saint-Esprit, il a annoncé la venue de Jésus. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que c'est surprenant comment le Seigneur est capable de parler. Il y a un livre peut-être que vous connaissez qui s'appelle « L'éternité dans leur cœur ». Je ne sais pas si vous l'avez lu pour certains. Ouais. Qui parle eh bien, comment dans des régions de la terre, des régions du globe qui n'avaient jamais été atteintes par l'Évangile, comment le Saint-Esprit a utilisé certains personnages dans leur culture, dans leur cortex, dans leur culte, pour les préparer à la venue de Jésus. Et une des tribus, par exemple, je crois que c'est en Malaisie, les Karen, sont tous chrétiens à l'heure actuelle. D'ailleurs, il faut prier pour eux, ils sont persécutés par le régime en place. Ces carènes sont tous chrétiens. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a parmi eux, on va employer ce terme, un prophète, qui leur a dit, un jour va venir au milieu de vous des hommes à la peau blanche, aux cheveux blonds, des barbes blondes. Eux, ils étaient le tamat, etc., et les cheveux noirs. Et ils vont vous dire des choses, ils vont vous parler du salut de vos âmes. Ils vont venir avec un objet et vous devrez les croire. Et quelques temps plus tard, des missionnaires hollandais sont venus, blonds, peau blanche, les yeux bleus, et avec un objet, un livre, la Bible. Et ils ont tous accepté Jésus pour sauveur. Alléluia, amen. C'est formidable ce que le Seigneur fait, amen. Ben, si vous voulez, voilà, on est un petit peu dans ce cas-là. Et donc, on peut bien sûr comprendre eh bien, que Jésus, eh bien, c'est vraiment ce personnage, bien sûr, eh bien, qui est annoncé, comme on l'a lu tout à l'heure dans Michée, au chapitre 5 et au verset 1er, qui est né en Israël, bien sûr, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et surtout, bien sûr, alors, et qui écrase la tête parce que ça de ses ennemis, parce que ça renvoie quand même à une prophétie, et cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui la donne à Adam et Ève lorsque, eh bien, ils ont péché. Il annonce la venue. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. Dieu parle au serpent entre ta postérité et sa postérité. Genèse 3, 15. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. Amen. Donc, ces mages découvrent que cette étoile annonce la venue du roi des Juifs, d'ailleurs ils le disent, les rois des Juifs, eh bien, qui vient pour régner et qui vient pour briser la tête eh bien, de ses ennemis. Et nous comprenons dès lors que ces hommes, au travers de cette étoile, vont être entraînés, vont être guidés par un plan qui est divin. Alléluia. Je crois qu'il y a une pensée, ce matin, on l'a dit, on l'a répété tout à l'heure, il y a un plan qui nous dépasse. Parfois, nous, on est dépassés par les événements, comme par les décès dont nous avons parlé tout à l'heure au niveau des annonces. Mais celui qui est eh bien, souverainement élevé et qui tient toutes choses entre ses mains, c'est le Seigneur. Alléluia. Et ces hommes sont entrés dans cette mécanique, dans ce plan divin eh bien, que le Seigneur avait mis en place eh bien, de toute éternité. Et en réfléchissant à ces choses, je me suis souvenu d'un texte, quand on y réfléchit un petit peu, il donne mal à la tête, tellement que les choses nous dépassent. Dans 2 Timothée, au chapitre 1er et au verset 9, il est écrit, Paul dit, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a appelés à une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon le dessein de Dieu. Nous sommes appelés à suivre le dessein de Dieu, à suivre le plan de Dieu. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Alléluia. Donc Dieu a mis en place un dessein pour nous sauver dès avant les temps éternels et il nous appelle à entrer dans ce plan. Alléluia. Et si vous me comprenez bien, eh bien nous voyons que ces mages, eh bien en voyant cette étoile, eh bien ont compris que Dieu les appelait à entrer dans ce plan. Alléluia. Et je voudrais m'adresser et peut-être conforter la foi de quelqu'un en lui disant, toi qui suis Jésus, tu fais bien, alléluia. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi il y a la maladie, pourquoi il y a le chômage, pourquoi il y a telle situation compliquée, mais enjoins ton âme à regarder l'étoile et à suivre l'étoile parce que tu es dans le plan de Dieu, alléluia. Le plan de Dieu ne consiste pas à avoir une belle Ferrari, je voudrais bien en avoir une pour Noël. Mon épouse m'a dit, Noël prochain. Voilà, mais elle m'avait dit ça déjà Noël dernier. Alors, bon, bref. Mais c'est pas ça, réussir sa vie. Mais c'est entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Suivre l'étoile. Et cette étoile, si vous voulez bien la comprendre, cette étoile, mais mon frère, ma sœur, cette étoile, elle nous parle de Jésus. Alléluia. Mais toute l'étoile brillante du matin, Apocalypse, chapitre 22 et verset 16, c'est Jésus. Il dit « Je suis l'étoile brillante du matin, cette étoile du berger, cette étoile eh bien, qui annonce que eh bien, le jour va venir, alléluia !» Et nous aussi, nous sommes guidés par une étoile qui nous annonce un jour glorieux, le jour de sa victoire, alléluia, le jour de notre réunion avec lui, amen. Nous sommes encore découragés, sommes fatigués, nous pouvons être terrassés, persécutés à toutes sortes d'égards. Mais nous avons une étoile qui brille, alléluia, et nous voulons la suivre, cette étoile. Je voudrais vous faire remarquer que, j'espère que je vais suivre mon plan, hein. Mais je voudrais vous faire remarquer que dans ce texte-là, eh bien, l'Écriture nous dit que Jésus est appelé, il parle de lui comme le roi des Juifs. Et en méditant sur, ils sont riches ces textes de la parole de Dieu, et en méditant, je me suis dit, Seigneur, ils disent les rois des Juifs, mais pourquoi ils disent les rois? Bien sûr, parce qu'il est né en Israël parmi les Juifs, mais à quel autre moment on entend parler de toi comme étant le roi des Juifs? Il y a un autre moment quand même que vous devez savoir, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Vous savez à quel moment Jésus a été appelé encore le roi des Juifs? À quel moment? Eh bien, bien sûr, vous connaissez bien la parole de Dieu. Alors regardez, pour le confirmer, on y va. Dans l'évangile selon Matthieu, on reste toujours dans le même évangile, au chapitre 27 et au verset 37, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Le roi des Juifs. Il y a un message extraordinaire, non seulement à dire que le salut vient des Juifs, qui sont voilà, les récepteurs eh bien, de cette alliance et de cette loi que Dieu a donnée avec les prophètes et qui bien qu'ils sont associés, mais ça veut dire le roi qui s'est intéressé à un petit peuple qui était en esclavage. Le roi qui a compassion de ceux qui sont faibles. Le roi qui aime jusqu'à donner sa vie pour nous à la croix du calvaire. Alléluia. Et ce texte, ce terme roi des Juifs, ça ne veut pas dire simplement que Dieu veut régner sur une seule catégorie eh bien de l'humanité, les Juifs en l'occurrence, mais c'est un signe pour nous. Seigneur, tu as eu compassion de son peuple, de ton peuple, tu as été fidèle malgré toute leur infidélité, mais aussi deviens mon roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ce roi-là qui t'appelle encore et qui veut te dire, eh bien ceci, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis heureux que Jésus soit mon roi. Il y a eu d'autres rois qui ont régné sur ma vie. Il y a eu d'autres choses qui ont régné. Parfois, ça veut revenir, mais je les chasse au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur, eh bien, c'est le meilleur des rois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ces mages vont donner de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ça parle de la nature de Dieu, ça, l'or, c'est inaltérable. L'encens, ça parle de communion, de prière. La myrrhe, ça parle de souffrance. Ça servait également à embaumer les corps. Et les mages, lorsqu'ils vont faire ces présents, ils vont dire, on sait que tu es le Fils de Dieu, tu es inaltérable, tu es éternel, tu es le Fils de Dieu. On sait que tu nous entraînes dans une relation et dans une communion avec Dieu comme aucune religion n'est capable de le faire. Tu es le médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour eh bien, nous entraîner cela, dans cela, tu vas devoir souffrir. Mais également, au travers de toutes nos souffrances, nous avons la victoire en toi. Alléluia. Et je voudrais dire que quand on suit cette étoile, quand on suit Jésus, on rencontre ces choses. Elles devraient nous guider. Parce que le but de ce message, c'est de rester attaché à cette conduite par les réalités célestes. Mon frère, ma sœur, que nous soyons vraiment tous attachés à cette réalité céleste. Je crois que c'est mardi ou vendredi soir, disait, mais vous savez, il y en a certains qui veulent nous sauver. Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui voulait sauver la France. Mais moi, excusez-moi, je suis déjà sauvé. J'ai un sauveur. Déjà, j'en ai un et c'est le meilleur. Alléluia, gloire à Dieu. Et merci Seigneur. Et vous voyez, mais rien que dans ce détail-là. Et je respecte, voilà, Mais mes frères et sœurs, ne mélangeons pas tout, que les réalités célestes nous conduisent et ne donnons pas un rôle spirituel, une autorité spirituelle à des hommes qui sont de la terre et qui sont incapables ni de sauver ni de changer le cours des choses. C'est un mensonge. Je le répète, c'est un mensonge. Le seul qui soit capable de changer les cœurs et les vies, c'est Jésus. Alléluia. Et on veut rester attaché à cela. Alors, cette étoile, eh bien, elle brille. C'est mon deuxième point. L'étoile, eh bien, qui est visible, Jésus se rend visible à nos cœurs, à nos vies, alléluia. Et voilà, et je crois que le Seigneur veut te toucher, veut te bénir, et il est visible, il est venu sur cette terre. Mais voilà, mais c'est une étoile qui brille. Parce que vous avez remarqué que dans ce texte, ils vont arriver à Jérusalem, et le roi Hérode va poser cette question, parce que naturellement, eux, ils cherchent le roi des Juifs, donc ils se disent, le roi des Juifs, on va le trouver à Jérusalem, la capitale. Et là, ils vont tomber sur un triste sire, le roi Hérode. Ce n'est pas un juif, lui, d'ailleurs. C'est un Iduméen. Il est issu d'Édom. Et lorsqu'on lit un petit peu l'histoire et les historiens, ce qu'ils nous en donnent, on voit un homme très habile, un homme cruel, qui a fait assassiner ses propres enfants pour rester sur le trône. Enfin bon, c'était pas bon d'être dans la cour, eh bien, de ce roi Hérode, même s'il était un grand bâtisseur. C'est lui qui a bâti notamment le temple de Jérusalem, qui était extrêmement connu dans l'Antiquité. Mais il va se poser la question et dire, mais depuis combien de temps? Depuis combien de temps l'étoile brille? On sait que dans sa tête, il commence à germer une idée qui est diabolique. Il veut éliminer ce fameux roi des Juifs. Lui, c'est un usurpateur. Il est comme le diable. Il veut prendre la place du Seigneur. Vous savez, le diable, il sait qu'il est perdu. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait que de toute façon, il ne pourra pas résister à l'avènement de Jésus. Mais il s'accroche. Et en ce qui nous concerne, eh bien, nous aussi, eh bien, on a besoin de savoir, mais Seigneur, c'est toi qui brilles. Alléluia! Et je voudrais te dire ceci, mon frère, ma sœur, est-ce que tu laisses Jésus briller dans ta vie? Ces hommes ont vu l'étoile, ils ont vu Christ, ils vous ont vu cette étoile, elle est visible dans ta vie. Si tu veux laisser ton cœur toucher par la parole de Dieu, si tu veux mettre ta foi en lui, tu vas le voir agir, alléluia. Mais est-ce que tu continues à le laisser briller? Parce que lorsqu'on voit Jésus, il brille de tout son éclat. L'Écriture nous dit, et je reprends quelques prophéties qui sont présentées dans l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit, ce peuple assis dans les ténèbres, Matthieu 4, 16, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée, alléluia, amen. Et lorsqu'on lit bien la parole de Dieu dans Matthieu, toujours au chapitre 4 et au verset, par exemple, 23, il nous est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Et alors, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait, alléluia. On voit le Seigneur briller. Le Seigneur qui brille, c'est-à-dire qui parcourt le pays, le Seigneur qui enseigne, le Seigneur qui prêche, le Seigneur qui guérit les malades. Alléluia! Amen! Et on a besoin de le voir briller. Et je vois là, Claude, les miracles, Claude. Alléluia! Amen! Et on veut voir davantage de miracles. Amen! Et merci le Seigneur pour Sani, il est au fond, là, je l'ai identifié. Hein? Gloire à Dieu, mais que d'y ait d'autres malades guéris au milieu de nous. D'autres personnes qui soient sauvées, qu'on continue de parcourir le pays. Je voudrais vous dire, béni soit le Seigneur pour le stand biblique. On s'est fait du bien mardi matin. J'ai pu parler à des Arabes, à des musulmans de Jésus. Et le Seigneur nous a conduits. Tu sais comment on doit se présenter devant Dieu? Tu sais qu'on va se présenter devant Dieu? Mais comment on peut se présenter devant Dieu? Et l'un d'entre eux m'a dit, il faut être pardonné. Je lui ai dit, tu as raison. Il faut être pardonné. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous pardonne en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. J'ai partagé ça avec un passant, là, je crois que c'était un passant. Ça a touché son cœur. Il est revenu avec un paquet de croissants et de pain au chocolat. Il m'a dit, je suis le boulanger des Halles de la Paillade. Ben, gloire à Dieu, alléluia. Ça veut dire qu'on a un beau message. Alors les frères et les sœurs, ils étaient contents aussi. Hein? Mais voilà, mais c'est ça l'Évangile, alléluia. Et mes frères et sœurs, je remarque que pendant qu'ils étaient à Jérusalem, l'étoile ne brillait plus. Je ne sais pas si vous avez fait un peu d'astronomie, pas d'astrologie. Hein. Pas d'astrologie, hein. Je ne cherche pas dans les étoiles, l'horoscope et tout ça. C'est une abomination devant Dieu. De l'astronomie, ça veut dire la grande ours, la petite ours avec une lunette, etc. Et ceux qui ont essayé un petit peu ça savent que ce qui peut empêcher... Eh bien, d'observer comme il faut, eh bien, ces étoiles, c'est la pollution lumineuse. Qu'est-ce que c'est ? Quand le ciel est trop éclairé par des lumières de la ville, un spot, etc., eh bien, des lampadaires, eh bien, cette lumière-là fait concurrence à la lumière de l'étoile que vous voulez observer. Alors, c'est pour ça que, généralement, les stations pour observer, alors comment on appelle ça là ? Ah, voilà, les observatoires, merci. Eh bien, ça se trouve sur de hautes montagnes ou dans des coins vraiment très reculés, et surtout aucune lumière, parce que la seule lumière qu'on doit voir, c'est la lumière qui vient du ciel. Je dis, il y a quelque chose quand même. Jésus, l'Écriture nous dit de Jésus, Jean 1, 9, il est la véritable lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. S'il est la véritable, si l'Écriture nous dit c'est la véritable, ça veut dire qu'il peut y en avoir de fausses. Et Hérode, c'était une fausse lumière. Et parfois, il y a des influences qui nous empêchent de voir les choses de Dieu. Parce qu'on est comme ébloui et quand même, pour voir le Seigneur, on est quand même sur la terre. Je ne sais pas vous, mais sans jeu de mots, on a parfois le cerf-volant. Hein. 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 2 nous dit que ce sont des choses qui montent difficilement dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que le Seigneur nous révèle. On a besoin de passer du temps. Et si, comme on l'entendait hier, je suis dans la fréquentation de certaines choses qui polluent ma foi ou qui brillent à la place de Jésus, mais je ne vais pas pouvoir être conduit par le Seigneur. Voyez ? Et je note une chose, c'est que dans la ville de Jérusalem, ils ne voyaient plus l'étoile. Parfois, je note rapidement, des choses qui aveuglent les yeux, qui ferment les yeux. Dans Deutéronome chapitre 16, au verset 14, les présents qui aveuglent les yeux. Et avec ces présents, on ne donne plus la justice dont on devrait la donner. Et on est comme corrompu, comme acheté. Ah, lui, il vit dans le péché, mais je n'ose pas lui dire, il est tellement sympa avec moi. Si je lui dis quelque chose, je ne vais plus faire le covoiturage. Pourtant, ça m'aide bien. La séduction. Vous savez qu'il y en a un qui a eu les yeux crevés à cause d'une femme. Samson et Delilah, vous vous souvenez ? La convoitise. Lot leva les yeux sur Sodome. Oh, je vais faire fortune. Et tu ne t'aperçois pas que c'est la ville du péché ? Tu ne t'aperçois pas de ça ? Et Genèse chapitre 13, verset 10. Et puis, une autre corruption, les fils d'Élie avec Élie. L'Écriture nous dit que Élie, le sacrificateur, avait les yeux fixes. En fait, ses fils prenaient la viande des sacrifices qui étaient pour l'Éternel, et il a gardé pour eux et pour son père. C'est pour ça qu'il était pesant, c'est pour ça qu'il était en surpoids, c'est pour ça qu'il était gros. Et à cause de ne plus voir même dans sa propre maison, de refuser de juger ses propres enfants, il ne voyait plus les choses. Et parfois, pouvons être de cette façon-là, avoir les yeux fermés. Il y a des choses, des mauvaises influences qui nous empêchent de voir les choses de Dieu. Mais je remarque une chose, que quand même, dans ce texte-là, il s'est passé quelque chose. Et parfois, on peut se trouver à ne plus voir les réalités. Seigneur. Parce que le pasteur, c'est le pasteur, mais le Seigneur, c'est le Seigneur. Comment je fais pour ouvrir les yeux ? Ils sont revenus à quoi ? À l'Écriture. Et dans ce texte, eh bien, on relit ceci. Eh bien, et toi, Bethléem, terre de Juda. Ah, c'est pas Jérusalem, c'est à Bethléem qu'il faut aller. Paf, la parole rétablie. Amen. Et mes frères et sœurs, on a besoin. Le Seigneur, la parole de Dieu, psaume 19, verset 8, la parole de Dieu, elle éclaire nos yeux. Elle éclaire nos yeux. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu n'y vois pas clair ? Mets ces lunettes-là. Lis la Bible. Le Seigneur va te... Quelque temps en arrière, il y a une sœur en Christ qui est venue ici, qui venait d'une autre assemblée. Elle m'a dit, mais il y a des choses, je ne comprends pas. Bon, bref, elle est restée quelque temps ici. Elle a rejoint notre assemblée qui était plus géographiquement plus proche et voilà, d'aplomb dans les Écritures. Et elle m'a dit au bout d'un moment, mais je lui ai dit, mais maintenant je comprends tout ça. Mais je lui ai dit, comment ça se fait que vous comprenez ? Ben, parce qu'on lit la Bible. J'ai dit, mais comment ça ? Dans l'église d'où je venais, on ne lisait jamais la Bible. Je lui ai dit, c'est possible ça ? Je lui dis, mais c'est bizarre, maintenant je lis la Bible et je la comprends. Ben, elle est faite pour ça. C'est fait pour ça. Tu comprends pas, mais lis les Écritures, alléluia. Lis la parole de Dieu, amen. Tout est écrit dedans. Et puis le Saint-Esprit, ce divin collyre, amen. Il nous donne un esprit de sagesse, alléluia. L'apôtre Paul nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, alléluia. L'Esprit de Dieu et le Seigneur, c'est celui qui illumine nos vies, amen. Alors, gloire au Seigneur, ces hommes-là, eh bien, se sont attachés à la parole de Dieu. Et je voudrais te dire ceci, si tu veux entrer dans les choses de Dieu, si tu veux voir ces guérisons, ces bénédictions, tout d'abord, il faut entrer dans cet acte d'obéissance et de soumission à la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que mon troisième point, c'est, alors on a vu une étoile visible, une étoile qui brille, mais une étoile qui marche devant. Qui marche devant. Elle ne marche pas derrière. Ce n'est pas les mages qui précèdent l'étoile, mais ce sont ces mages qui vont suivre l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a une position pour être conduit. Mes chers frères et sœurs, il doit y avoir une position d'humilité. Seigneur, tu es à ta place et moi je suis à la mienne. Comme Marthe et Marie, le Seigneur c'est celui qui enseigne et Marie c'est celle qui reçoit son enseignement, la meilleure place, celle qui ne sera point ôtée. Lorsqu'on commence à dire « Seigneur, je te parle d'égal à égal, moi je vais t'apprendre quelque chose », c'est Marthe et Jésus, vous vous souvenez ? Ah, il y a une communion, il y a une relation, mais elle est extrêmement tendue. Et parfois, il y a des frères et des sœurs. Oh, Seigneur, mais moi, je vais te dire, c'est comme ça qu'il faut faire, et pas autrement. Et voilà, et moi, je vais lui mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il va comprendre, il va entendre. Est-ce que tu as vu déjà le Seigneur parler comme ça ? Est-ce que tu as vu déjà le Seigneur parler comme ça ? Vendredi soir, on a vu comment le Seigneur a parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le Seigneur sait qu'ils viennent de désobéir. Il sait qu'ils viennent d'être tentés par le diable et de succomber à la tentation. Ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû. Et quand le Seigneur les visite, il leur dit pas attention, où es-tu ? Pose que des questions. Que des questions. Où es-tu ? Où es-tu ? Mais qui t'a appris que tu es nu ? Qui t'a appris ? Est-ce que tu as mangé ? Et à la fin, pourquoi tu as fait ça ? Et on s'aperçoit que ces questions, elles sont là pour, en réalité, bien sûr, le péché va être sanctionné, bien sûr, il va y avoir des conséquences. Mais déjà, dans le cœur du Seigneur, on sent que le but, ce n'est pas de perdre, mais c'est de les retrouver. C'est de les retrouver. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Et on a besoin de laisser Jésus prendre toute son autorité dans nos vies, alléluia. Il doit être la tête, il doit être le berger qui marche devant les brebis, la tête du corps. Et nous, on a besoin, mes chers frères et sœurs, dans cette France, dans cet Occident, cette Europe tellement orgueilleuse, on a besoin de reprendre une position d'humilité et de dire le roi et le Seigneur, c'est toi Jésus. Alléluia, tu vas marcher devant moi. Alléluia. Et Seigneur, tu marches et au moment où tu t'arrêteras, je m'arrêterai aussi. Amen, alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Il va s'arrêter à Jérusalem, à Bethléem, et ils vont voir le Seigneur Jésus. Je voudrais simplement vous dire ceci, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu cherches toujours dans la parole de Dieu la réponse, la solution ? Moi, dans ma Bible, là, des fois, je le regarde. Parce que c'est pas mal. Il y a quelques promesses de la Bible quand vous avez besoin de réconfort. Vous l'avez, ça ? Moi, j'aime bien parce que c'est la Bible. Et alors, il est dit, quand vous êtes anxieux et inquiet, 1 Pierre chapitre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ah ben Seigneur, si je suis anxieux ou inquiet, c'est ça que je vais faire. Seigneur, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Alléluia. Et regardez, il nous est dit, quand vous êtes malade ou dans la souffrance, alors Isaïe 53, verset 4, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Seigneur, tu me soulages, alléluia, voire même tu me guéris. Quand j'ai des doutes, Marc 9, 24, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous priez comme ça ? Des fois, il faut vraiment nommer les choses, les identifier. Et c'est ça, suivre l'étoile. Seigneur, c'est toi qui as la solution, alléluia. C'est toi qui te rends visible, c'est toi qui brille, mais c'est toi également que je dois suivre, à toi toute la gloire. Alléluia, il y avait un dernier point, mais c'était cette étoile qui devait être aperçue. À la fin, il nous est dit, lorsqu'ils aperçurent l'étoile, et j'ai cherché dans le grec, apercevoir, remarquer, examiner, observer, redoubler d'attention, c'est une étoile qu'il ne faut pas, il ne faut pas se lasser de l'observer, parce qu'elle bougeait. Le Seigneur est en mouvement, il revient bientôt, alléluia. Et vous avez remarqué que, heureusement qu'ils ont été sensibles, eh bien, à l'action aussi du Seigneur, parce que Dieu les a conduits pour pas qu'ils retournent à Jérusalem et Hérode et qu'ils entrent dans tout ce complot macabre qui était en train d'être fait. Mes frères et sœurs, il me semble que nous aussi, nous avons besoin jusqu'au bout d'observer l'étoile, alléluia, de rester avec un esprit, une bonne conscience. Ce devrait être un travail quotidien, mes chers frères et sœurs. Acte 24-16, et je termine là-dessus. Et l'apôtre Paul dira ceci, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. » Qu'est-ce que c'est une conscience sans reproche ? Une conscience qui est toujours éclairée. « Seigneur, ce qui me guide, c'est ta parole. » Alléluia. Et on l'aperçoit. Et mes frères et sœurs, je répète là-dessus, ça demande du temps, ça demande, de l'investissement, de la consécration. Des temps de prière, non seulement à l'église, mais encore à la maison, alléluia, pour se laisser éclairer et garder toutes ces choses. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand même, ces hommes-là, eh bien, ils ont été guidés vers l'étoile, leur voyage est réussi, et ils sont rentrés chez eux, complètement bénis, éclairés. On l'a vu, le roi des Juifs. Alléluia, amen, gloire au Seigneur, et nous aussi, on le verra. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse se terminer en se remettant entre les mains du Seigneur. Et dire, Jésus, je veux me laisser conduire, diriger par toi. Alléluia. Et chercher en toi la solution dont j'ai besoin. Amen. Seigneur, tu as vaincu le diable, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Tu es celui qui est venu sur cette terre, toi le Fils de Dieu. Seigneur, pour nous faire goûter à cette belle communion, Seigneur, avec le Père, dont nous ne lassons jamais, dont on ne peut pas se lasser. Et Seigneur, tu as reçu également la mire qui nous parle de ta mort et de tes souffrances, nous montrons également, Seigneur, comme Paul dira à Timothée, que quand on veut marcher avec toi, il y a des souffrances, souffre avec moi, mais ne sois pas vaincu, mais sois vainqueur, parce que l'étoile te guide, parce que je suis ton étoile, l'étoile brillante du matin. Seigneur, je te prie pour celui, pour celle, Seigneur, qui traverse peut-être un épisode difficile, parce que lorsqu'on voit l'étoile, c'est toujours la nuit, et on est dans un monde, et Seigneur, un don spirituel nous l'a rappelé. Seigneur, notre monde, il est dans la nuit, Seigneur. Mais il y a une étoile qui brille. Alléluia. Et je te prie pour le frère, pour la sœur, afin que, Seigneur, il relève sa tête et qu'il ne soit plus, Seigneur, conduit ou que ses émotions ne soient plus gérées par les choses d'en bas, mais par les choses d'en haut. Seigneur, sa foi, son être tout entier. Père Céleste, nous te le demandons. Seigneur, nous avons chanté ce chant merveilleux. Tu nous bénis, mais c'est la bénédiction qui vient d'en haut. Ce n'est pas la bénédiction qui vient d'en bas. Alléluia. On n'en a rien à faire, Seigneur, des bénédictions d'en bas. Mais c'est toi que nous recherchons. Alléluia. Et Seigneur, je te remercie encore pour cette étoile qui brille. C'est toi-même, Seigneur, qui brille dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, je te prie pour un frère, encore une fois, une sœur. Seigneur, afin qu'il s'attache à te considérer toi, à considérer Jésus dans sa vie, son œuvre, Seigneur, sa communion, alléluia, sa relation. Et Seigneur, tu le conduiras, Seigneur, à bon port. Tu le sortiras, Seigneur, mon Dieu, de cet épisode difficile. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Tu nous évites même le danger, tous les Hérodes de cette terre. Seigneur, à toi la gloire. Nous te remercions, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. Amen.